Alors, depuis le début de l'année, je vous propose qu'on avance 4 pas en avant, qu'on fasse 4 pas dans la direction du Seigneur, dans la direction, je dirais, dans la vie chrétienne riche que le Seigneur a en réserve pour nous. Et on a vu jusqu'ici 3 P, on a commencé un 4e P la semaine passée, avec Sonny. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent le 1er P? On commence par la présence de Dieu. Hein? On va dans la présence de Dieu. Il est tout mis, ça va aider. Et le 2e? Le plan. Quand on est dans la présence de Dieu, on va découvrir dans sa parole quel est son plan pour nous et le plan pour l'Église, le plan pour le monde aussi. On se met à l'écoute de la parole de Dieu ensemble. Et le prochain P, c'est? Ouais. On peut être dans la présence de Dieu, on peut connaître son plan, mais si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Alors, adorer, servir Dieu avec passion, Seigneur a une mission pour nous. Le Seigneur nous appelle individuellement puis en tant qu'Église à accomplir sa mission, la mission qu'il nous a laissée. Et le 4e P? C'est pas ça. C'est pas la pureté. Ça fait partie de... C'est relié. Non, c'est pas moi, c'est Sonny. C'est sa faute. Non, mais c'est très relié. La puissance. Hein? Par la puissance de l'Esprit. Alors, supposons que vous recevez en cadeau une superbe auto neuve, hein, tout équipé, confort, sécurité, que ça soit dedans, ça sent le cuir, là, quelque chose de... hein? Hein, les gars? Et on a un projet de voyage extraordinaire, on va avoir une vie nouvelle, on va avoir une vie transformée avec cette auto-là. Et on désire d'y aller de tout son cœur, la passion est là, on veut embarquer, on pèse, on met la clé dans le moteur, on pèse sur l'accélérateur et... démarre pas. Pas de puissance. Et je pense que ça... En tout cas, ça nous décrit souvent. On a toutes les 3 premiers P, là. Mais comment ça se fait qu'il... Hein? Cette vie-là, là, je la vis pas comme je devrais la vivre. Alors, qu'est-ce qui donne la puissance dans ma vie? Qu'est-ce qui va donner la puissance dans ma vie? Qu'est-ce qui donne la puissance à un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a reçu un nouveau cœur, qui a une nouvelle nature? Sonny, la semaine dernière, il nous a dit qu'est-ce qui enlève la puissance? Souvenez-vous? Le P, c'est un autre P. Hein? Et c'est si on veut connaître la puissance de Dieu, il faut avoir la pureté. Hein? Avoir les mains propres, parce que si je suis atteint d'un virus ou d'un microbe, tout mon corps, toute l'énergie est à combattre le péché ou à combattre le virus dans ma vie et j'ai plus d'énergie pour le reste. Alors, le péché dans la vie d'un chrétien, ça n'a pas de place. C'est pas moi qui le dis. Jésus, il était très clair là-dessus. Quiconque est devenu un enfant de... Là, c'est Jean. Mais quiconque est devenu un enfant de Dieu, cesse de pécher. Car la puissance de vie de Dieu qui agit en lui, puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. C'est en français courant. L'autre version, parole vivante, celui qui par la nouvelle naissance est devenu un enfant de Dieu ne s'adonne pas au péché, car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui. Il est incapable de s'adonner au péché puisqu'il est né de Dieu. L'enfant de Dieu ne peut pas vivre indéfiniment dans le péché. Impossible. Et c'est clair. L'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a la puissance de vaincre le péché dans sa vie. Hein? On a un autre ennemi aussi. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que le monde est plus fort que nous? Est-ce que le monde va nous entraîner dans sa débauche? Pas si c'est un enfant de Dieu. Voici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? S'il y a des gens qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, si tu crois ça, tu es équipé pour vaincre toutes les séductions du monde. Et le troisième ennemi, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Hein? Il le répète, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, on a tout, ce qui cause le péché dans nos vies, on a tout ce qu'il faut lorsqu'on est chrétien pour le combattre, l'éliminer. Il y a cette promesse-là, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait quelquefois, de temps en temps, triompher en Christ. Non, qui nous fait toujours triompher en Christ. Alors, si vous avez cette impression-là que vous êtes défait par le péché, dominé par le péché, mensonge du diable. C'est pas ce que Dieu dit, ce n'est pas la vérité. Il nous fait toujours triompher en Christ. Et il répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Ça paraît qu'on a cette puissance-là en nous. Nous sommes plus que, dans toutes ces choses, il parle des tribulations avant nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dominations, le présent, l'avenir, les puissances, les êtres d'en haut, ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Alors ça, c'est des promesses, et j'en ai une superbe. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, elles me suivent. Caractéristique d'une brebis authentique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va suivre Jésus. Je leur donne la vie éternelle. Et ça dure combien de temps, la vie éternelle? Éternellement. Elles ne périront jamais, personne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main. Il n'y a pas de trou lorsqu'on est dans la main de Dieu, lorsqu'on est un enfant de Dieu. Il n'y a pas un petit trou. Oups! Il m'a échappé. Hein? Je suis en parfaite sécurité dans les mains de mon Père et dans les mains de Jésus-Christ. Alors, d'où vient la puissance? Elle n'est pas en moi. Même dans mon nouveau cœur. J'ai reçu une nouvelle nature, un nouveau cœur, et il n'y a pas de puissance là. Même dans ce nouveau cœur-là, dans cette belle voiture-là, toute neuve, il n'y a pas de puissance. Il est juste fait pour recevoir la puissance. Qui a la puissance? Jésus s'approcha, leur parla, ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, dans le monde spirituel, si on peut dire, au-dessus des mauvais esprits, et sur la terre. Jésus règne sur la terre. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur tout ce que je vous ai précisé. Il manque un petit bout. À observer. Enseignez-leur à observer ou à garder tout ce que je vous ai précisé. Et voici, je suis avec vous. Alors, on a le plan et on a la présence de Dieu. Qu'est-ce qui manque? La puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous allez pouvoir accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée. Hein? Et un passage parallèle, si on peut dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, on pourrait dire de son cœur, de l'intérieur. Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Alors, il y a cette puissance-là qui est venue, qui s'appelle le Saint-Esprit, à partir de la Pentecôte. Et depuis la Pentecôte, c'est parti. Le moteur s'est mis à tourner. Hein? Le moteur a démarré. Il y a eu un départ fulgurant. Ça a traversé les siècles, ça a traversé le monde, les continents, ça a traversé les races, les langues, ça a traversé les empires, ça a traversé tous les systèmes de pensée, ça a traversé le communisme, ça va traverser le paganisme et ça va traverser tous les siècles. Hein? La puissance de l'Évangile nous est parvenue jusqu'ici au Québec en 2013 et c'est à nous d'expérimenter cette puissance-là, la puissance de Jésus-Christ en moi. Est-ce que quelqu'un veut voir la puissance de Dieu dans sa vie? Quelqu'un veut voir la puissance de Dieu dans notre église? Quelqu'un veut voir la puissance de Dieu dans le quartier, dans l'ouest de l'île et jusqu'aux extrémités de la terre? Comme ça s'est produit depuis le début? Ça, c'est le plan de Dieu. Hein? Est-ce qu'on a assez vu? Ça fait 40 quelques années, je suis chrétien. 35 ans, je suis pasteur. Est-ce que je suis rassasié? J'en ai assez vu, le Seigneur arrête, c'est notre offense. Non, je suis pas tanné. On a eu un mois de février épouvantable. Hein? En tout cas, peut-être que moi, je parle de moi, là. Je parle de moi. Le 11, c'est moi. D'habitude, ça exclut la personne qui parle, mais... ouais. Mais il y a eu des attaques, il y a eu sur notre église, il y a eu une oppression terrible au milieu de ces tempêtes-là. Wow! De voir ma faiblesse, mais de voir la puissance de Dieu qui se révèle, c'est quelque chose. Non, je ne suis pas tanné. Moi, j'y crois à l'oasis. Moi, j'y crois à ces fleuves d'eau vive qui vont couler puis qui vont libérer les gens, guérir les gens qui en ont besoin, sauver les gens qui sont perdus, guérir les cœurs brisés. Et cette promesse d'eau vive, hein, c'est quoi de l'eau vive? Il y a un désert, là, et puis l'eau vive, elle coule. Et qu'est-ce que l'eau produit? Un jardin. Hein? Ça, plein de fruits qui vont pousser. Alors oui, je crois. Et il y a des épisodes dans les évangiles. Il y a un épisode en particulier, j'aimerais qu'on regarde, dans la vie des disciples. Je pense que il y en a beaucoup, là, mais à ce moment-là, là, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie des apôtres, dans la vie des disciples de Jésus. Ça a marqué leur foi en Jésus. Et on a besoin, nous aussi, de passer par là. Ce que les apôtres ont vécu dans cette histoire-là, on a besoin de le vivre personnellement, puis on a besoin de le vivre aussi en Église. C'est une histoire qui se passe dans l'Évangile de Marc, on va le voir tantôt. Mais juste pour vous mettre dans le contexte, Jésus, sur le bord de la mer de Galilée, il prêche à des foules, même si c'est écrit qu'il n'est même pas capable de manger, il n'a pas le temps de manger, tellement qu'il est absorbé, tellement qu'il est pourchassé. Il n'y a pas de temps intime, les besoins sont immenses. Sa parenté vient le voir, imaginez-vous, parce qu'ils veulent le ramener à la raison, ils pensent qu'il est fou. Hein? Il a perdu la raison, il est insensé. Ensuite de ça, les scribes arrivent de Jérusalem, Puis là, ils disent, ce gars-là, il est possédé. Hein? Il y a un esprit impur en lui. Et ça fait que les gens ont cessé de le suivre. Non, ça fait le contraire. Il est encore plus populaire. Et il y a des grandes foules qui allaient écouter Jésus encore plus. Et c'est écrit qu'il les enseignait longuement en public. Et ensuite, il prenait du temps avec ses apôtres en particulier pour les enseigner encore plus en particulier. Et dans le verset suivant, il dit « Passons l'autre bord. Passons sur l'autre rive. » Alors, avec le contexte que je vous donne là, je pense que Jésus était prêt pour prendre un break. Hein? Il était probablement épuisé physiquement et pas de paix, pas de repos. Possiblement, il avait fait suffisamment dans cette région-là, sa mission était accomplie, puis il dit, passons de l'autre bord. Mais là, la question, c'est comment ça se fait qu'il y a une tempête? Pourquoi une tempête? Y a-t-il besoin de ça? Hein? On peut regarder ça humainement et dire, le timing n'est pas très bon. Hein? Jésus a besoin, il était humain comme nous, il avait besoin de ce repos-là. Et c'est Jésus qui a dit, passons à l'autre bord. Il ne savait pas, lui, qu'il y avait une tempête. Jusqu'à quel point le fait qu'il était Dieu, il pouvait connaître ces choses-là? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que c'est lui qui a permis ça? Pas de réponse non plus. Est-ce que c'est dû au hasard? C'est un hasard de la nature. Ils ont pris le bateau, et puis c'est le fun parce que cette image-là, c'est à peu près la grosseur du bateau qu'ils ont retrouvé sur un bateau qui date de l'époque de Jésus. Là, j'ai des photos de ça. Mais c'est à peu près la grosseur, c'est pas plus gros que ça. Alors, c'était assez assez fragile. Et c'était inévitable, probablement, même que Jésus était le Fils de Dieu qui était exposé aux mêmes intempéries que les autres êtres humains. Hein? Jésus n'échappait pas aux tempêtes. Alors, juste pour essayer de comprendre un petit peu, mais je crois qu'il y avait quelque chose de plus. Il y avait l'action souveraine de Dieu. Dieu était à l'œuvre dans cette histoire-là. Ça faisait partie de son plan. Cette tempête-là n'était pas le fruit du hasard, ça faisait partie du plan souverain de Dieu. Et quand on lit Marc et Luc, on voit que Marc et Luc ont placé trois événements, un à côté de l'autre, pour répondre au scribe et répondre à sa famille, qui pensait qu'il était fou, puis qui pensait qu'il était possédé, hein, qu'il était animé par un esprit impur. Alors, les trois événements, c'est, il calme la tempête. Ensuite, l'autre chose, il y a un démoniaque qui est guéri. Il a chassé le démon du démoniaque. Et la fille de Jaïr qui est ressuscitée. Alors, ça, c'était la réponse. Qui est Jésus? Est-ce que c'est un fou? Est-ce que c'est un possédé? La réponse, c'est quoi? Jésus est puissant, il a autorité sur la nature, la tempête, il a autorité sur les démons et il a autorité sur la mort, la maladie. Alors, et les disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui est donc celui-ci? C'est à dur pour eux autres de dire, hey, c'est Dieu. Hein? Ça a pris du temps avant qu'ils comprennent. Et c'était pas évident de dire ça, là. Mais c'était l'évidence. Hein? Les faits étaient là. Qui peut avoir une puissance comme ça, sinon Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ a la puissance sur la nature? Hein? Est-ce qu'il a la puissance sur les démons? Est-ce qu'il a la puissance sur la maladie, la mort? Pour moi, la tempête, c'est pas un hasard. Hein? Ça faisait partie du plan de Dieu, plan souverain de Dieu. Parce qu'il était en train de préparer ses apôtres à la tempête qui s'en venait, là. C'est comme une preview de la grosse tempête qu'il allait avoir. Jésus crucifié, mort. Méchante tempête. Est-ce que vous avez déjà fait face à une tempête? Est-ce que vous êtes en train de faire face à une tempête? Une tragédie, là. Quelque chose de désespéré. Vous criez à Dieu. Hein? Perdu le contrôle complètement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si ça ne vous est pas arrivé encore, ça va venir. Et on peut sympathiser avec les disciples dans la barque. Hein? Quel était leur problème? En souvenez-vous? Hein? Hey, pas ancien pour rien. Hein? Pas ancien pour rien. Il leur dit, pourquoi avez-vous tellement peur? Ben, il me semble que si je me mets dans le pot des disciples, et Jésus est étonné, comment ça se fait, vous avez peur? Hein? Comment ça se fait, vous avez peur? Comment n'avez-vous pas de foi ou vous n'avez donc pas encore de foi? Ou Matthieu dit, Jean de peu de foi, puis Luc, où est votre foi? Hein? La peur, ça nous fait perdre notre puissance. Et ça peut être bénéfique. Hein? La peur me fait perdre ma puissance. Ce que moi, je suis capable de faire. Et le Seigneur, des fois, nous amène là. Michel, t'avoues-tu, là, que t'es pas capable? Hein? La peur, ça nous empêche de réfléchir, ça nous empêche de raisonner correctement. Pourquoi est-ce qu'il était là, en plein milieu de la mer? Pourquoi est-ce qu'il était là? Quoi? Il a dit, hein? Passons de l'autre bord. Il avait suivi Jésus. Pas eux qui se sont mis dans le pétrin, là, qui ont décidé d'aller, d'aller ailleurs faire d'autres choses, puis ils récoltent ce qu'ils sèment. Non, non. Ils sont en train de suivre le Seigneur. Dans le. Jérusalem Post, le lendemain. Hein? Journal de Jérusalem. Jésus, le Sauveur, là, je traduis en. C'est écrit en hébreu, moi, je traduis. Jésus, le Sauveur, le Messie, a péri dans un naufrage avec ses disciples. Est-ce qu'il y avait du bon sens?
Non.
Il n'y a pas de bon sens. Hein? Ils n'ont pas réfléchi 2 minutes. Et Jésus, il est étonné, il n'en revient pas. Ils sont dans plein milieu d'une tempête, la barque est en train de couler. Puis il dit, qu'est-ce que vous avez? Hein? Pensez-vous vraiment que le Messie va périr dans un naufrage? Puis si vous êtes avec lui, que ça va mal aller? Que vraiment Dieu va permettre ça? Non? Alors, les émotions ont pris le dessus, puis ils ont chialé après à Jésus, ils ont dit, comment ça se fait que tu fais rien? Tu vois pas qu'on va périr? Et là, ils se sont mis à douter, ils se sont mis à lui faire des reproches. Est-ce que ça arrive des fois que vous avez l'impression que vous priez, puis que il se passe rien. Pas de puissance. Elle est où la puissance de Dieu? Moi, je veux voir la puissance de Dieu. Elle est où? Dans ma vie? Hein? Mes enfants? Mes frères et sœurs ici, là? Et où la puissance de Dieu? Sur le péché? T'as su qu'il n'y a pas de numéro au numéro que vous avez composé? Ça répond pas? Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il est impuissant, il est impitoyable. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il dort. Et c'est quoi notre problème? Qu'est-ce que Jésus dit? Notre foi. On n'a pas la foi dans le bon Dieu. Changeons de Dieu. Si on suit Jésus-Christ, il n'y a plus de tempête. Tout va bien aller. Tout va être merveilleux. C'est ça qu'il a dit? Non. Moi, je dirais le contraire. La minute que tu décides de suivre Jésus-Christ, attends-toi qu'il y aura des tempêtes. Il y a quelque chose que j'ai entendu une fois, puis ça m'est resté. Quelqu'un a dit, si tu marches, puis tu rencontres pas le diable, c'est probablement que tu marches dans la même direction. Alors, l'enfant de Dieu, il va en affronter des tentations, il va en affronter des épreuves, il va en affronter des tragédies. C'est inévitable. Et ce que je dis ce matin, c'est que ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Ce qui t'arrive dans ta vie n'est pas le fruit du hasard. Ça fait partie du plan de Dieu, comme ça faisait partie du plan de Dieu de former ses apôtres. Il n'y a pas de trou dans les mains de Dieu, comme on disait tantôt. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des chrétiens qui vivent dans la noirceur, qui vivent dans le secret. Qui sont malheureux. Jusqu'à temps que ça vienne à la lumière. Qui ose le confesser, qui ose le partager. Et là, Dieu peut agir. Genre de peu de foi. Où est-ce que tu regardes? Si je mets les yeux sur la tempête, si je mets les yeux sur les circonstances, c'est sûr qu'on coule. Puis il n'y a pas de puissance, il n'y a rien qu'on peut faire. Mais si on peut voir dans cette tragédie-là, si on peut voir dans ces moments-là qui sont difficiles, si on peut voir une occasion, une opportunité pour Dieu de s'approcher, de se manifester, de se révéler à ses disciples, c'est wow! Les disciples ont vu Jésus d'une façon extraordinaire. Leur foi a été transformée. Ils ont vu la tempête maintenant comme une occasion pour Jésus de manifester qui il est, de se manifester dans cette tragédie-là. Et si tu es en train de passer à travers une épreuve, une tragédie, tu es en train de passer à travers ça, là? Vois ça comme, OK, Dieu est en train de se révéler à moi. Dieu, il veut s'approcher de moi. Dieu, il veut se coller sur moi, puis il veut que je me colle sur lui. Qu'est-ce que les disciples auraient dû faire? Aller sur le coussin. Avez-vous un coussin? Avez-vous un coussin? Vous êtes dans la barque, nous sommes dans la barque, avec Jésus. T'as-tu un coussin, t'as-tu un endroit, en quelque part, chez toi, où tu peux te coucher, puis sentir les bras du Seigneur, au milieu de n'importe quelle circonstance? T'as-tu ça? Sinon, là, t'es pogné à te débrouiller avec tes propres forces, ta propre puissance. Puis, Seigneur est patient, il va attendre que tu t'épuises, que tu épuises toutes tes ressources. Puis, que finalement, tu ailles à lui, avec des cris désespérés. Hein? Qu'est-ce que les disciples auraient dû faire? Aller sur le coussin. Hey, Dieu est dans la barque. Puis quand ils sont arrivés au bout de leurs ressources, là, ils ont compris qu'ils étaient perdus, qu'ils n'avaient rien à faire. C'était quand même des marins, des pêcheurs expérimentés. Ils savaient que c'était dangereux. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? On a atteint nos limites. On est au bout. Et Seigneur, on te fait confiance. Hein? Quand je suis rendu au bout de mes capacités, là, je dois être capable de transformer mes angoisses, transformer mes paniques qui sont dues à mon manque de foi. Si j'angoisse et je panique, c'est parce que je manque de foi. Et de dire, OK, je vais saisir cette occasion-là pour exercer la foi. Qu'est-ce que ça prend pour transporter une montagne? La foi, gros comme un grain de cénerée. Qu'est-ce que ça prend pour traverser l'épreuve que tu es en train de traverser? La foi. Juste, OK, Seigneur, tu as le contrôle. Ce n'est pas vrai que tu es absent. Ce n'est pas vrai que tu ne réponds pas. Ce n'est pas vrai que tu es en train de me voir couler sans rien faire. Ça, c'est pas le bon Dieu. Je n'ai pas le bon Dieu. Le vrai Dieu, il est là, il est souverain. Toute chose concourt au bien de celui qui l'aime et qui l'aime. Seigneur, OK, je vais aller me coucher sur le coussin. Seigneur, je vais me mettre dans tes bras. Et je vais me relever avec la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On a besoin de pratiquer ces choses-là. Hein? Transformer nos peurs, nos angoisses. Il faut avoir ce coussin-là, l'endroit où je peux aller, puis refaire des forces, trouver la paix, me relever, faire un petit bout, et puis retourner sur le coussin quand ça force. Puis vraiment revenir au Seigneur. On a un Dieu qui est puissant. Moi, je veux voir ce Dieu puissant-là à l'œuvre dans ma vie, personnellement. Je veux voir ce Dieu-là à l'œuvre dans la vie des gens que j'ai rencontrés ce mois-ci, qui vivent des choses épouvantables, des tragédies. Je veux voir Dieu agir dans ces circonstances-là. Et il le fait. On peut voir des choses fantastiques, des petits pas. Et tout ce que ça prend, c'est la foi, un petit peu de foi. En tant qu'Église, c'est la même chose. Est-ce qu'on veut voir Dieu agir? Est-ce qu'il y a des défis devant nous? Énorme. On a besoin de la puissance de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. On va continuer à explorer cette puissance-là qu'on a besoin. Comment est-ce que je peux avoir la puissance de Dieu? Comment est-ce que je peux la voir dans ma vie? Amen. Prions. Seigneur, on peut probablement sympathiser avec cette image-là qui est devant nous, des disciples qui sont affolés, qui sont... Peut-être qu'il y a des gens ce matin qui sont venus ici, mais qui sont angoissés, qui vivent des choses épouvantables. Et qui sont venus parce que ils ont besoin d'un coussin. Et nous sommes ce coussin-là. La présence de Dieu. Oui, Seigneur, je te prie vraiment de prendre ce frère, cette sœur dans tes bras maintenant. De verser dans son cœur combien tu l'aimes, ton amour. Combien tu prends soin d'elle, de lui. Que tout ça a un sens. Ça fait partie de ton plan, parce que tu veux te manifester, tu veux te révéler et tu veux faire grandir notre foi. Seigneur, c'est comme ça qu'on veut voir les défis devant nous, des occasions où on crie à toi. On va être plein d'admiration devant ce que tu vas accomplir à travers nous. Amen. On va terminer avec la louange.